Et c'est le journal présenté donc par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir à tous. Le projet de service universel se précise. Ce futur service national devrait comprendre une phase dite de cohésion d'un mois à l'âge de 16 ans. La dimension militaire disparaît. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, est l'invitée du 18h. 10 membres d'un groupuscule de l'ultra-droite présentés à un juge antiterroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté des attaques contre des musulmans en France. Le mot « race » pourrait bientôt disparaître de la Constitution française. La Commission des lois de l'Assemblée a adopté un amendement dans ce sens. Et puis le Lifeline accoste à Malte ce soir. Le navire humanitaire qui transporte environ 230 migrants a passé 6 jours en eau internationale. 7 pays, en plus de Malte, devraient se répartir l'accueil des exilés. À quoi va ressembler le service national universel voulu par Emmanuel Macron ? On en sait enfin un peu plus, après bien des tergiversations. À l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les grandes lignes du projet. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Il devrait donc y avoir un service civique obligatoire d'un mois aux alentours de l'âge de 16 ans, suivi d'un engagement sur la base du volontariat.
Oui, ce service national universel s'effectuerait à partir de l'âge de 16 ans. Il durerait un mois au minimum et serait obligatoire. Tous les jeunes seraient concernés, les garçons comme les filles. Sur tous ces aspects, le gouvernement n'entend pas transiger. Maintenant, dans l'application, ce service d'un mois pourrait être scindé en deux temps, deux semaines, avec un premier temps dit d'intégration ou de brassage social, en hébergement collectif, où il pourrait y avoir une évaluation du niveau de connaissance ou encore un enseignement des gestes de premier secours. Puis un second temps qui ressemblerait plus à un stage dans des domaines variés comme l'aide à la personne, l'environnement, la sécurité. Il pourrait ensuite y avoir une deuxième phase, celle-ci facultative, si le jeune le souhaite, beaucoup plus longue, de 3 mois à 12 mois, à effectuer avant l'âge de 25 ans. Ce SNU doit se mettre en place progressivement à partir de l'année prochaine pour devenir pleinement effectif en 2025, dans 7 ans. La différence avec ce qu'avait évoqué Emmanuel Macron en mars 2017 pendant sa campagne est que ça ne s'effectuera pas dans un cadre militaire, mais dans un cadre civil, avec pour encadrer ces jeunes des associatifs, voire d'anciens militaires à la retraite.
Et le dispositif a donc vocation à toucher 750 000 jeunes par an. Pour nous apporter un éclairage supplémentaire sur ce service national universel, nous sommes en ligne avec la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Bonsoir Geneviève Darrieussecq.
Bonsoir.
Au départ, Emmanuel Macron avait parlé d'un service militaire, or ça n'est pas du tout ce qui se profile. Pourquoi ce renoncement ?
Il n'y a pas de renoncement. Il a parlé de service militaire peut-être dans une campagne électorale, mais très rapidement, il a parlé d'un service plutôt de type civique et citoyen qui parlerait de la chose militaire et où il pourrait y avoir, il y aura une participation des armées, bien sûr, mais qui ne sera pas un service militaire au sens où on entendait service militaire il y a maintenant une grosse trentaine d'années.
Alors quel sera le rôle de l'armée, justement, dans le dispositif ?
Mais le rôle de l'armée sera d'abord le rôle qu'a l'armée au niveau des journées défense citoyenneté qui existent actuellement pour 800 000 jeunes par an, qui est un rôle d'apprentissage de tout le système de sécurité de notre pays, sécurité intérieure, sécurité extérieure. Et ce module d'apprentissage est un module important qui devrait être intégré dans ce service national universel, parce que c'est quelquefois la première fois que la majorité des jeunes entendent parler, par exemple, de nos armées. Donc les militaires pourront toujours continuer à produire ces modules d'apprentissage.
Mais alors il ne s'agit pas de manipuler les armes, donc sécurité dans quel sens exactement ?
Il ne s'agit absolument pas de manipuler les armes, il s'agit de leur faire connaître quel est notre dispositif de défense, comment se caractérisent nos armées, quelles sont les missions de nos armées, quelles sont aussi les missions de la sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, les pompiers. Je crois que tout ça est un socle de connaissances que chaque citoyen doit avoir. Et il faut poursuivre, à mon sens, cet apprentissage, ce module d'apprentissage. Nos armées y participaient massivement, puisque la journée défense citoyenneté est organisée par un service qui dépend du ministère des Armées, et donc continuera à travailler dans ce sens. Et le deuxième point où nos armées peuvent être d'un appui important, c'est par exemple dans la formation des encadrants, puisqu'il faudra des encadrants pour encadrer ces jeunes. Et nos armées, nos militaires ont une vraie compétence dans la transmission de ces notions et de ces bases d'encadrement. Et je crois que là, nous pourrons avoir aussi un rôle très important.
Mais alors, Geneviève Darrieussecq, le service militaire volontaire tel qu'il existe aujourd'hui est très efficace en termes de réinsertion. Vous ne regrettez pas qu'il n'ait pas été étendu ?
Le service militaire volontaire, c'est en fait un dispositif d'insertion qui s'adresse à une catégorie de jeunes qui sont en difficulté. En difficulté d'apprentissage et qui n'ont pour la plupart aucun diplôme, afin qu'ils retrouvent un diplôme et qu'ils puissent disposer de qualifications pour entrer dans le monde du travail, ce qu'ils font à 75% quand ils sortent de ce service militaire volontaire. Ce n'est en rien un dispositif qui peut être développé pour 800 000 jeunes, sachant que dans les 800 000 jeunes, il y a une majorité de jeunes qui ne sont pas du tout en difficulté d'apprentissage, et que ce qui va être important, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre un brassage de la jeunesse afin que les jeunes se connaissent, tant un brassage social, mais également un brassage territorial. Et je crois que le service national universel doit répondre à ce besoin, il me semble, pour la nation, que la jeunesse se connaisse, se rencontre, afin qu'elle puisse, que ces jeunes puissent ensemble eh bien certainement apporter des solutions progressivement à nos problèmes de cohésion nationale.
Et un mois, ça vous paraît suffisant pour la transmission des valeurs, pour le brassage, comme vous dites ?
Je pense qu'un mois est suffisant. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir trouver une juste mesure entre les objectifs que nous souhaitons, que nous avons mis en avant depuis le démarrage de cette étude du service national universel, soit des objectifs de justement engagement, civisme, développement de la solidarité, brassage des jeunes. Donc tout ça, ce sont des notions importantes. Et en face, faire en sorte que la jeunesse puisse faire ce service dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que ça n'altère pas, bien sûr, leur cursus scolaire, que ça n'altère pas leur évolution, qu'elle soit scolaire ou professionnelle d'ailleurs, parce qu'il y a des jeunes qui, à 16 ans, travaillent.
Merci beaucoup Geneviève Darrieussecq d'avoir été l'invitée du journal de 18h. Les députés planchent en commission sur le projet de révision constitutionnelle et ils ont ce matin revu l'article 1er de la Constitution. Acte symboliquement très fort, ils ont retiré le mot « race » de l'article 1er pour introduire à la place l'interdiction de distinction de sexe, Christine Monclar.
Alors ce n'est pas exactement à la place d'eux, ce serait plutôt une double modification qui est proposée simultanément et qui est censée signer, c'est vrai, une évolution de la société française telle que la souhaite Emmanuel Macron, une société du 21e siècle où l'égalité homme-femme doit être érigée en principe constitutionnel. C'est ainsi que cet article 1er, s'il est validé dans la suite du calendrier parlementaire, stipulerait que les êtres humains ne peuvent être distingués ni par leur sexe, ni par leur origine, ni par leur religion, et donc plus par leur race, comme l'écrivait jusque-là la Constitution. Cette référence en négatif à la race avait été inscrite au lendemain de la guerre et des crimes nazis, mais aujourd'hui, ce mot dérange, il est mal compris, infondé de surcroît par les sciences, expliquent les députés signataires. Ce sont 6 amendements de groupes politiques différents qui ont donc été adoptés hier à l'unanimité en commission des lois. À l'unanimité, malgré des réticences persistantes qui portent toujours, et depuis des années déjà, sur l'utilisation que pourrait faire l'extrême droite de la suppression de ce mot. La LICRA, elle, pointe un autre atout de ce vote, celui de désamorcer la nouvelle langue néocoloniale qui redonne à la race une sorte de nouvelle jeunesse, comme l'écrit le président de l'association dans le journal Le Monde. Il évoque, pour sa part, les racialistes de l'ultra-droite, bien sûr, mais aussi les mouvements qui se disent aujourd'hui racisés.
Christine Monclar, les 10 personnes appartenant à l'ultra-droite et interpellées le week-end dernier vont être mises en examen. Elles sont suspectées d'avoir projeté des attentats contre des musulmans. Des armes et des explosifs artisanaux ont été saisis. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Tout a commencé par une enquête ouverte le 13 avril dernier par la section antiterroriste de Paris au sujet d'une mystérieuse organisation, Action des Forces Opérationnelles.
L'AFO, dont le site internet très artisanal et assez sommaire est toujours en activité, ce groupe, sans doute plutôt un groupuscule, se fixe comme objectif de, je cite, « lutter contre le péril islamiste ». Et il propose de, je cite à nouveau, « préparer des citoyens soldats français au combat sur le territoire national ». On y trouve essentiellement des fiches pratiques pour survivre en milieu hostile. L'enquête a révélé que le groupe essayait de recruter de nouveaux membres et d'étendre son maillage territorial et qu'il proposait des formations de combat et des stages de survivalisme. Selon le parquet, certains membres cherchaient à se procurer des armes et avaient testé des grenades et des explosifs de confection artisanale. 36 armes à feu ont été saisies, dont 31 détenus sans autorisation ainsi que plusieurs milliers de cartouches. Au domicile de l'un des membres de l'AFO, les enquêteurs ont découvert une grenade artisanale et des éléments entrant dans la fabrication d'explosifs. Un passage à l'acte violent aurait été envisagé, mais au contour imprécis à ce stade. 10 personnes ont donc été présentées à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Les profils sont assez variés. Elles sont âgées de 32 à 69 ans. Le leader présumé du groupe est un retraité de la police nationale. On compterait dans les rangs également un ex-militaire. Le parquet réclame la détention provisoire pour 9 des 10 personnes et un contrôle judiciaire pour la 10e.
Antoine Marette, qui sont les bons élèves de la lutte contre la pollution atmosphérique? Greenpeace publie un classement des grandes villes de France en fonction des actions qu'elle mène pour que l'on respire mieux. Et conclusion de l'ONG, toutes les villes sont en retard en matière de réduction du trafic automobile, Véronique Ruberotte.
Il y a les villes qui font des efforts pour diminuer la pollution liée aux différents moyens de transport. Nantes, Strasbourg, Grenoble et Paris font partie des villes les mieux notées. Marseille et Nice arrivent tout en bas du classement. Pas assez d'efforts, notamment dans ces villes du Sud, pour réduire la place de la voiture. La pollution de l'air occasionnée en grande partie par le trafic automobile est pourtant la troisième cause de mortalité en France. Sarah Fayol, chargée des questions de transport à Greenpeace.
Il y a un vrai enjeu de santé publique qui se joue là et on a donc besoin que les villes passent à l'action, à la fois en termes de restrictions sur les voitures polluantes et en termes de développement des alternatives à la voiture, le développement du vélo, le développement des transports en commun. Donc ça, c'est le constat général. Et d'ailleurs, il est important de rappeler à cet égard que la France a été renvoyée devant la Cour de justice européenne par la Commission européenne très récemment, justement parce que dans un certain nombre de nos grandes villes françaises, on est en situation de dépassement des normes européennes de la pollution de l'air. Donc il y a une urgence à agir. Et sur le cas de Paris, ce qu'on peut dire, c'est que de fait, Paris a encore beaucoup à faire pour sortir du tout voiture, on va dire. On a encore une très faible part du modal du vélo à Paris. On a encore un niveau de qualité de l'air qui est très médiocre. On a encore des niveaux de congestion automobile qui sont importants. Donc tout n'est pas gagné à Paris. En revanche, il y a des points positifs qui méritent d'être soulignés. De fait, Paris est une des seules villes françaises à avoir mis en place une zone à circulation restreinte permanente. Et c'est vrai que les associations locales qu'on a sollicitées pour avoir leur retour sur tout ce qui est développement des alternatives à la voiture mettent en évidence une dynamique positive. Évidemment, tout n'est pas gagné. Hein. Par exemple, en termes de réseau vélo, l'association locale souligne que Paris est encore en retard, mais qu'il y a une dynamique intéressante et une volonté d'avancer sur ces enjeux-là qui méritent d'être soulignés.
La France est considérée comme l'un des plus mauvais élèves de l'Europe, avec 48 000 morts prématurées liée à la pollution de l'air.
La rougeole n'est pas une maladie anodine, rappelle Santé publique France. Après l'annonce du deuxième décès en France depuis le début de l'année, l'agence souligne que l'insuffisance de la couverture vaccinale a favorisé cette maladie extrêmement contagieuse. Il attendait depuis une semaine un port prêt à l'accueillir. Le Lifeline peut finalement accoster à Malte. La décision annoncée hier par l'Italie et la France a été confirmée aujourd'hui par le Premier ministre maltais. Les 233 migrants transportés par le navire humanitaire seront ensuite répartis entre 8 pays européens, dont l'Italie et la France. Et le Lifeline sera mis sous séquestre à son arrivée, Clarence Rodriguez.
Oui, c'est en effet le début des ennuis pour le Lifeline, dont le navire sera mis sous séquestre pour les besoins de l'enquête. Son capitaine est accusé par Joseph Muscat, le premier ministre maltais, d'avoir violé les lois internationales et de n'avoir pas obtempéré aux ordres de remettre les migrants aux gardes-côtes libyens. Réaction de l'ONG allemande qui s'est défendue dans un communiqué aujourd'hui, précisant que remettre les 233 personnes aux prétendus gardes-côtes aurait été en contravention avec la Convention de Genève sur les réfugiés et donc criminel. Alors que ce soit le Lifeline ou d'autres ONG qui viennent au secours des migrants, elles suscitent ces derniers jours des critiques véhémentes de la part de gouvernements européens. Emmanuel Macron a fustigé hier l'UNHCR, les organisations humanitaires, les accusant de faire le jeu des passeurs. On ne peut accepter durablement cette situation car au nom de l'humanitaire, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. Pour Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, les associations sont victimes d'un faux procès. Le médecin défend les organisations humanitaires qui viennent en aide aux migrants. Elles ne font absolument pas le jeu des passeurs. En attendant, celui qui se frotte les mains, c'est le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, et il le fait savoir sur son compte Twitter. Il se réjouit que le navire Lifeline accoste à Malte et non en Italie, ce qu'il considère comme une autre victoire de son gouvernement, allusion à l'Aquarius repoussé la semaine dernière en Espagne.
Et à la veille du sommet européen qui portera surtout sur les questions migratoires, la CIMADE pointe la forte augmentation du nombre de migrants refusés aux frontières françaises depuis 2015. L'association publie un rapport intitulé « Une Europe qui s'enferme » et elle dénonce la compétition entre États où chacun, je cite la CIMADE, veut dissuader les personnes migrantes d'entrer sur son territoire national. Écoutez Marine De Haas, coordinatrice du rapport et chargée des questions européennes à la CIMADE.
Il y a des missions qui ont lieu à la frontière franco-espagnole. Il y a eu plusieurs missions aussi d'observation très régulières à la frontière franco-italienne au niveau de Menton ou que ce soit plus haut dans les Alpes au niveau de Briançon. Et puis, il y a eu aussi des missions réalisées notamment à la frontière avec la Belgique et la frontière avec l'Allemagne. Et le constat que nous faisons, c'est que dans les choix de déploiement qui ont été faits, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les frontières sud sont beaucoup plus investies et notamment la frontière franco-italienne. Vous avez des forces de l'ordre qui sont déployées à des cols alpins qui sont entre 1700 et 2000 mètres sur des petites routes de campagne dans la forêt. Autant vous dire que c'est pas forcément par là que passeraient des personnes suspectées d'activités terroristes. La deuxième chose, c'est sur les motifs des refus d'entrée, donc des non-admissions que la France a délivrées à ses frontières terrestres. Sur un chiffre de plus de 85 000, vous avez seulement une vingtaine de personnes dont l'entrée aux frontières terrestres a été refusée pour des motifs de menace à l'ordre public. L'immense et écrasante majorité des personnes dont l'entrée a été bloquée en 2017, ce sont des personnes pour lesquelles la police estimait qu'ils n'avaient pas les documents nécessaires pour entrer en France. Ce que nous, on a observé, et notamment à la frontière franco-italienne, c'est qu'un certain nombre de ces personnes étrangères étaient des personnes qui souhaitaient demander l'asile en France ou étaient mineures. 14 000 mineurs dont l'entrée a été refusée à la frontière franco-italienne en 2017.
Marine De Haas, jointe par Louise Guibert. La nuit dernière aux États-Unis, un tribunal de San Diego a dénoncé la pratique de séparation des familles de migrants à la frontière avec le Mexique. La justice demande au gouvernement fédéral américain de réunir les familles dans les 30 jours, ce qui ne sera pas facile à mettre en œuvre compte tenu du manque de centres de rétention. Et puis les élections de mi-mandat approchent, c'est dans moins de 5 mois, c'est un scrutin essentiel pour l'administration Trump. Mais tous les partis se mettent en ordre de marche. Il y a des élections primaires en ce moment un peu partout chaque semaine. Hier, à New York, la surprise est venue d'une candidate de 28 ans, latino-américaine née dans le quartier du Bronx. Elle a remporté la primaire organisée à gauche en battant un représentant démocrate élu depuis 20 ans au Congrès. Alexandria Ocasio-Cortez est-elle le symbole d'un renouveau de la classe politique avec des jeunes et des femmes qui s'engagent? C'est en tout cas un coup dur pour le Parti démocrate qui apparaît sur cette primaire débordée par sa gauche. Le reportage de Grégory Phillips.
Elle-même n'en croit pas ses yeux. Dans la primaire du 14e district de New York, Alexandria Ocasio-Cortez vient de battre le représentant démocrate Joe Crowley au Congrès depuis deux décennies qu'on présentait hier encore comme le futur successeur de Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants. Ocasio-Cortez a 28 ans, latino-américaine, novice en politique. Il y a 6 mois, elle était serveuse dans un bar de New York avec un budget de 100 000 dollars contre 2 millions pour son adversaire, avec un programme qu'elle qualifie de socialiste. Elle crée donc une énorme surprise, comme annoncé dans son clip de campagne.
Personne n'aurait cru qu'une fille portoricaine comme moi, venue du Bronx, soit capable de se présenter au Congrès ici à New York. Vous savez, beaucoup pensaient, les autres ont de l'argent pour leur campagne et pas elle, donc c'est plié. Mais si on doit avoir au Congrès un représentant qui se bat pour une couverture santé universelle, des moyens dans les écoles publiques ou encore l'arrêt des expulsions d'étrangers, c'est bien dans ce district. Ici, la moitié de la population est immigrée.
Le programme d'Ocasio-Cortez est donc clairement à gauche. Si elle l'emporte aussi en novembre, elle sera la plus jeune des élus du Congrès. Son adversaire à la primaire d'hier, le représentant Crowley, a salué avec élégance la victoire de la jeune femme.
This is for Alexandria Ocasio-Cortez.
En chantant à la tribune le tube de Springsteen, Born to Run, né pour courir.
Grégory Phillips. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se retrouver prochainement pour un sommet bilatéral. Les présidents américains et russes se rencontreront dans un pays tiers. Les relations entre les deux pays sont empoisonnées par les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, par le conflit syrien et par la crise ukrainienne. La Pologne recule sur sa loi controversée sur l'Holocauste. Le Parlement polonais a supprimé les peines de prison prévues pour ceux qui attribueraient la responsabilité de l'État polonais dans les crimes commis par le Troisième Reich allemand. Le texte initial avait été vivement critiqué, notamment par Israël et par les États-Unis, qui reprochaient à Varsovie de vouloir nier la participation de certains Polonais à la Shoah. Le temps de demain, eh bien, la journée sera à nouveau très ensoleillée. Il fera 12 à 18 degrés en général demain matin, 18 à 23 sur les plages de Méditerranée. L'après-midi, 21 à 25 degrés en bord de Manche, 26 à 32 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.